Vous écoutez RTL.
Deuxième invité d'RTL Soir, politique, ton univers impitoyable. Bonsoir, Fleur Pellerin.
Bonsoir.
Ça fait pile une semaine que vous n'êtes plus ministre. À 16h30, la semaine dernière, on apprenait le remaniement. D'abord, comment vous allez ?
Ben, je vais très bien. Je suis quelqu'un de très positif. Donc, vous savez, je considère avec maintenant ce petit recul que j'ai eu énormément de chance de faire ce que j'ai fait et de servir la France comme j'ai pu le faire dans 3 postes successifs.
Donc, pas de blues, pas de ressentiment, rien de tout ça ?
Je ne fonctionne pas au ressentiment et je pense que ça ne produit jamais rien de bon. Donc, vous dire que je n'ai pas été un peu surprise et choquée par la nouvelle lorsque je l'ai apprise, parce que je l'ai appris quasiment en même temps que les Français, serait mentir. Mais
voilà, maintenant, je ne vous attendiez pas du tout.
Non. Mais je me projette vraiment dans l'avenir maintenant. Et voilà, un état d'esprit très positif.
Très positif, constructif. Vous ne vous y attendiez pas du tout, hein, parce qu'on avait vu ça. Quand les journalistes venaient vous voir quelques minutes avant, vous étiez même plutôt confiante. Hein.
Oui, j'ai dit que j'étais sereine parce que j'ai vécu plusieurs remaniements. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre dire, je n'ai jamais estimé que j'étais propriétaire d'aucun poste que j'ai occupé. Donc je sais que par définition, être ministre, outre le fait que c'est une très belle fonction et pour servir l'intérêt général, je sais que c'est un bail précaire. Donc je n'ai jamais considéré que ma vie était en jeu dans le fait de poursuivre ou ne pas poursuivre.
Mais en tout cas, vous aviez une forme d'assurance de continuer, quoi. Ou en tout cas, pas de feu clignotant.
Je le croyais. Et en même temps, je ne considérais pas comme un drame atroce et irrécupérable
vous ne vous êtes pas évanoui comme on l'a lu, vous n'avez pas pleuré comme on l'a lu. D'ailleurs, sur Twitter, vous avez de l'humour. Hein. Vous avez tweeté « Oui, bien sûr, on m'a administré des sels, puis j'ai été évacué par hélicoptère à la Pitié,
où
je suis resté dans le coma pendant 24 heures. »
Pour ne rien vous cacher, j'ai trouvé ça un petit peu sexiste, parce qu'on n'aurait jamais dit d'un de mes collègues masculins qu'il est tombé dans les pommes et qu'il s'est mis à pleurer et à faire une crise de larmes. Donc, il y a une forme d'hystérisation des femmes que je trouve un peu désagréable. Enfin, franchement, je crois que ça n'intéresse pas grand monde.
Mais donc vous avez été choquée sur le moment, vous me le dites.
Voilà, j'ai été surprise, un peu saisie. J'étais en train de discuter ma loi. J'avais passé la nuit au Sénat sur la discussion de ma loi. Donc effectivement, j'étais un peu surprise. Voilà, c'est là.
Qui vous a averti, le président de la République lui-même?
Oui, c'est le président de la République. J'avais eu un indice parce que Jean-Marie Le Guen, qui est responsable de l'organisation des séances au Parlement, m'avait laissé comprendre que je n'allais peut-être pas revenir pour poursuivre la discussion de la loi au Sénat. Donc j'étais un peu préparée psychologiquement à l'appel du président de la République
Il vous dit quoi? Il vous dit comment ça se passe? Parce que après, on va faire le bilan, évidemment, et ça va être peut-être plus intéressant pour vous. Mais là, ça intéresse aussi les auditeurs. Comment ça se passe? Il vous dit, désolé, ma petite fleur, mais ça sera sans toi?
Il ne m'a pas dit ma petite fleur, mais il m'a dit effectivement qu'il avait décidé de nommer quelqu'un d'autre sur mon poste et qu'il ne pouvait pas me dire qui c'était parce qu'il n'avait pas encore tout à fait son choix, mais que je n'avais pas démérité. Il m'a remercié pour ce qui avait été fait et il m'a dit qu'on se verrait bientôt pour envisager, pour parler de la suite.
Bon, vous l'avez vu depuis?
Je ne l'ai pas encore vu, ça ne fait qu'une semaine. Et puis, je pense qu'il a beaucoup de choses plus importantes à régler actuellement. Mais c'est la vie. Je pense que, encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas moi, comment je l'ai pris, mes sentiments. C'est ce qu'est la politique culturelle aujourd'hui.
Mais alors, justement, là-dessus, qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, vous n'ayez pas poursuivi? On se souvient de cette image dans le portrait d'Yves Jolland, donc, qui avait suivi François Hollande, où à un moment donné, quand il vous nomme ministre, il vous dit, va au spectacle tous les soirs, il faut que tu te tapes ça et que tu dis, c'est bien, que c'est beau. Va voir Jack Lang.
C'est bizarre,
vous n'avez pas assez fait ça?
C'est bizarre d'ailleurs parce qu'on m'a beaucoup reproché cette séquence où moi je suis silencieuse et donc j'écoute. Je crois qu'en fait, fondamentalement, je pense qu'effectivement, il y a deux façons de voir l'apport de la culture, l'apport du ministère de la culture dans la politique de notre pays et ce que peut faire la culture pour retisser du lien social, pour contribuer à la citoyenneté, etc. Et il y a une façon de voir les choses qui peut consister à se dire la culture, c'est l'excellence de ce qui existe déjà et donc il faut surtout protéger ce qui existe, faire en sorte qu'on continue à distribuer des subventions aux mêmes personnes pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail d'excellence, etc.
Et un peu les flatter dans le sens du poil, c'est un peu ça.
Et puis, probablement, considérer qu'il faut surtout entretenir le lien affectif avec les milieux culturels.
Donc, clairement, faire du RP, quoi.
Peut-être. Enfin, ça peut paraître déjà un jugement de valeur de dire ça. Mais considérer que l'existant est très bien et qu'il faut surtout maintenir l'existant. Et puis, il y a une autre vision qui, à mon avis, est une vision de gauche, qui est plus, à mon avis, réformiste, qui consiste à dire, la politique culturelle, elle peut très bien contribuer à la promotion de la jeunesse, la démocratisation, le fait de donner des chances un peu plus égales à tous les enfants de France. Elle peut également jouer un rôle majeur dans la réflexion sur la citoyenneté, sur la laïcité, sur tous les grands débats qui traversent la société, à essayer de démocratiser l'accès
à la
culture.
Donc vous êtes employé à ça plutôt que d'aller serrer des mains aux gens déjà bien installés, quoi.
Voilà, parce que moi j'ai toujours considéré, par exemple, que j'étais plus utile en inaugurant une médiathèque à Mondeville plutôt qu'à une avant-première ou à une inauguration au Grand Palais ou au Centre Pompidou. Moi je pense que j'étais très soutenue par toute une partie partie des acteurs de la culture, des artistes.
Mais pas les bons.
Il y a sans doute un milieu, un microcosme parisien qui n'était pas satisfait de ce que je faisais. Et je l'entends très bien, je peux le comprendre. Je ne suis pas quelqu'un d'obtus et de fermé. Mais je pense que ça ne représente pas forcément toute la sensibilité.
Et ce microcosme-là, on en a besoin quand on a 2017 en ligne de mire.
Oui, peut-être, mais je pense qu'on a besoin de tous. Oui.
Mais vous ne faites pas une autocritique ? Il y a peut-être aussi des choses que vous avez mal faites.
Oui, je pense que sur la manière dont j'ai expliqué, communiqué ce que j'étais en train de faire et l'ambition que j'avais pour le ministère de la Culture, je n'ai pas été suffisamment claire, ou j'ai considéré que, peut-être à tort, que la communication n'était pas un préalable à l'action, et moi je souhaitais d'abord faire des choses. Et je me suis peut-être trompée d'ordre, peut-être que j'aurais dû faire preuve de davantage de pédagogie. Donc si j'ai une chose à regretter, c'est plutôt ça.
Enfin, même plus quand même sur la communication, vous êtes pris un peu les pieds dans la communication. Cette fameuse séquence au supplément où vous ne pouvez pas citer un livre de Modiano, la communication, vous êtes un peu pris les pieds dedans, non ? Il y a une sorte de procès en légitimité autour de Florent Pellerin.
Il y a sans doute eu un procès en légitimité ou en illégitimité depuis le début, mais encore une fois, on a tronqué mes propos, c'est-à-dire qu'on a dit elle ne sait pas lire, alors que j'avais dit que je lisais beaucoup avant, mais que, pardon, depuis 2 ans, je consacrais tout mon temps éveillé à mes fonctions et que j'avais mis de côté ma vie familiale, ma vie intellectuelle, qui était extrêmement riche avant. Seulement, on a tout coupé pour faire en sorte que ça apparaisse comme l'aveu d'une personne qui n'a jamais lu un livre de sa vie et qui sait à peine lire un livre.
Mais donc, en creux, ce que je comprends, c'est que vous regrettez quand même, malgré tout, de ne pas pouvoir aller mener cette action jusqu'au bout au gouvernement et que ce serait ça, une vraie politique culturelle de gauche, pendant un quinquennat de gauche.
Quand on a commencé à faire autant de choses que ce que j'ai fait en 15 mois, bien sûr, on regrette de ne pas être dans le temps long.
Je parle pas d'un plan personnel, mais d'un plan politique. Votre vision politique, ça va pêcher dans le quinquennat de François Hollande.
Parce que tout ce que j'ai fait pour commencer à réorienter ces crédits du ministère de la Culture vers les territoires, pour demander aux institutions culturelles qu'elles aillent proposer une offre culturelle, des actions, de l'animation à des territoires qui sont dépourvus d'offres culturelles, tous ces efforts-là que j'ai commencé à entreprendre, évidemment que j'aimerais qu'ils continuent, mais je pense qu'au fond, ils n'étaient pas tout à fait dépendants de ma personne. Je pense qu'ils peuvent très bien être poursuivis par Audrey Azoulay et j'espère qu'ils le seront. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est que cette vision-là ne soit pas balayée avec mon départ et qu'elle reste présente dans le débat public.
Vous parlez d'Audrey Azoulay, on a beaucoup lu que c'était Julie Gayet, la compagne donc, du président, qui lui a recommandé de plutôt la nommer parce qu'elle saurait parler à ce microcosme.
Oui, je vous arrête tout de suite, je ne rentre absolument pas dans ce genre de choses. Encore une fois, le président de la République a fait campagne sur une éthique du pouvoir, une éthique des nominations, une éthique de gouvernement. Et franchement, je crois que c'est indigne de dire ce genre de choses parce que je pense que ça accrédite l'idée que les politiques n'ont aucune morale, etc. Donc moi, je ne rentre pas là-dedans.
Il a fait aussi campagne sur une politique culturelle de gauche, mais qui ne vous laisse pas mener à terme et vous lui reprochez ce soir d'une certaine manière.
Vous savez, rétrospectivement, je me dis que finalement, même dans le cadre de la campagne, peut-être qu'on aurait dû davantage insister sur la manière dont cette politique culturelle peut davantage influer sur les grands débats de société, peut faire davantage pour une politique d'intégration.
Quand vous êtes parti du ministère, il y a une semaine, vous avez raconté votre parcours, la petite fille abandonnée dans un bidonville en Corée qui a été ministre. Tout ça, ça a été extrêmement fort. C'est ce qui va rester pour vous. Donc ce soir, vous êtes reconnaissant envers le président de la République de vous avoir permis ça ?
Mais bien sûr, moi je suis très reconnaissante au système français d'enseignement supérieur. Je suis très reconnaissante au président de la République de m'avoir nommée, au Premier ministre, d'avoir proposé mon nom au président de la République. Je pense que c'était un acte politique aussi. En fait, je l'ai peu réalisé peut-être pendant que j'étais en fonction.
Vous allez faire quoi, lire maintenant ?
Je vais recommencer évidemment à m'occuper de ma famille, à reprendre les activités artistiques et nombreuses que j'avais auparavant. Je peins beaucoup, je fais de la musique, je lis énormément et puis je vais surtout réfléchir à ce qui me préoccupe et donc que j'évoquais tout à l'heure. C'est que je souhaite vraiment que l'expérience que j'ai accumulée qui m'a permis de concevoir une façon peut-être différente de faire de la politique, que cela puisse être mis à profit dans le débat public. J'espère être utile de cette façon.
Pour 2017.
Pour 2017.
Au côté de François Hollande, 2017. D'une certaine manière, aller compléter sa politique culturelle à côté pour 2017.
Pour moi, c'est très important de défendre une vision de la politique culturelle qui est celle que j'ai décrite. Et pour moi, c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans le cadre d'une campagne présidentielle, par exemple, par les candidats.
Là-dedans que vous pourriez vous inscrire, mais pour ça, il faut quand même travailler. Vous allez être recasé, puisque on lit ici ou là que, par exemple, au château de Versailles, vous pourriez être nommé.
Alors, ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup, parce que j'ai une conception des institutions culturelle notamment, mais de manière générale, qui est une conception extrêmement noble. Je considère que les institutions, elles sont là pour faire vivre un projet politique et elles ne sont pas des lots de consolation pour des gens qu'on peut croire déçus. Donc moi, j'ai une très haute estime pour ceux qui dirigent les institutions culturelles et je vous le dis très clairement, si on me proposait une chose pareille, je le refuserais parce que ce n'est pas la façon dont je conçois la politique de nomination et le rôle qu'ont les institutions culturelles dans notre pays.
Mais vous allez vivre de quoi, Fleur Pellerin ?
Vous savez, je suis fonctionnaire, je l'étais avant, je le redeviens après ma sortie du gouvernement. Donc il y a mille façons de contribuer au débat intellectuel et au débat politique.
Il faut derrière un emploi, derrière, vous n'allez pas être fonctionnaire à la maison.
Je suis magistrate à la Cour des comptes.
D'accord.
Et voilà, et je pense pouvoir être utile, encore une fois, en essayant de faire fructifier cette expérience absolument extraordinaire que j'ai accumulée, tant au numérique qu'au commerce extérieur,
mais pour,
puis à la culture.
Pour François Hollande, ou alors ça peut être pour un autre candidat de gauche?
Et si François Hollande est d'accord pour s'approprier cette vision de la politique culturelle, eh bien évidemment, je serais très heureuse de la lui mettre à disposition.
Autrement, vous serez une frondeuse.
Je ne serai pas une frondeuse, mais je pense qu'un candidat à l'élection présidentielle, en tout cas celui pour lequel j'aurais envie de consacrer du temps et de l'énergie, devra avoir pris en compte cette vision que je défends de la politique culturelle.
Donc lui, ou un autre, on entend quand même ce soir, lui.
Mais j'espère qu'il entendra ce message et cette vision de politique culturelle au service du progrès social et de la transformation de la société que je défends. Je pense que c'est vraiment une politique de gauche.
Ministre, un jour, à nouveau, vous en rêvez ?
Non, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ma préoccupation majeure. Encore une fois,
j'entends pour l'instant, mais
il y a beaucoup de manières d'être utile. Je pense que je peux l'être. J'espère que je peux l'être. Pas en étant dans la destruction. Encore une fois, dans la complainte. C'est pas du tout mon état d'esprit.
Pas de livre, Fleur Pellerin, ma vérité.
Mais
non.
On peut faire un livre qui soit constructif et qui, encore une fois, soit tourné vers l'avenir, vers la construction de quelque chose de nouveau, qui soit pas dans la dénonciation, dans la revendication, dans la complainte. Moi, ce n'est pas mon état d'esprit. Ce n'est pas ce que je suis. Et si jamais un jour je rassemble mes idées dans un livre, ce seront des idées qui seront positives, constructives et qui viseront à construire demain, mais pas à détruire ce qui a été fait par le passé.
Donc vous ne l'appellerez pas merci pour ce moment.
Non.
Merci beaucoup Fleur Pellerin d'être venue ce soir sur RTL.